bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadhafi, Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Bonjour.
Avant de parler de Florian, on va parler de Guillermo.
Oh,
tant qu'il passe sur eux sera là et notre invité Florian Zeller. Désolé Florian, j'ai failli vous présenter comme l'un des membres de cette équipe. Je suis totalement désolé alors que vous êtes un éminent invité. Merci.
Et vous n'avez rien à voir avec nous.
De venir. Oh bah non.
Bah non.
Lui il a le prix SACD Théâtre 2019.
Et puis vous avez été à l'école tout court.
Première question est de savoir est-ce que vous allez bien Florian.
Très bien, merci.
Bon, le père, la mère, le fils, la trilogie qui a été un énorme succès au théâtre et qui maintenant se retrouve publié chez Gallimard. Alors la première question que je voulais vous poser, c'était sur le mode de création de cette trilogie. Est-ce que vous saviez dès le début que vous alliez avoir la mère d'ailleurs, ça a commencé par la mère.
Ça a commencé par la mère.
La mère, le père et le fils, ou fort du succès de l'un, vous avez dit, bah tiens.
Non plus, c'était pas par opportunité. La mère, c'était la première pièce que j'ai écrite de cette trilogie, ça s'appelait La fête des mères, donc ça n'avait rien à voir avec un projet de trilogie. Et c'est Catherine Yégel qui l'a interprété. On a fait une première lecture et... on s'est dit, non, la fête des mères, ça va pas tellement avec la pièce, qu'elle était très cruelle et d'autant plus cruelle que c'était Yégel qui l'a interprétée. Et on a cherché ensemble, on s'est dit, en fait, la mère, c'était un beau titre pour cette pièce-là.
Donc, au moment de la mère, vous n'aviez pas le père en tête, est-ce que, au moment du père, vous aviez le fils en tête?
Voilà, évidemment, j'avais la tentation. Quand j'ai écrit le père, tout le monde me disait, alors quand est-ce que tu vas écrire l'oncle, la tante, etc. tout le monde se moquait un peu de moi. Et donc, je me dis, il vaut mieux pas que j'écrive le fils, mais malgré tout, j'avais très envie d'aller sur ce territoire-là et de clore quelque chose.
En tout cas, c'est une réussite d'émotion, d'amour, et puis, évidemment, chacun s'identifie à l'un ou à l'autre de vos héros. Il y a quand même l'un des points communs, le nom des personnages. Mm-hmm. On retrouve Anne, Pierre, j'en oublie, il y a Nicolas.
Oui, voilà, en fait, ce sont des pièces qui sont complètement autonomes.
Alors qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Oui, en tout cas, il y a des échos comme ça, mais ça n'a pas vocation à être la suite, c'est pas la suite, aucune des pièces n'est la suite de l'autre. Mais il y a comme ça un jeu de miroir qui me plaisait, mais ça va pas plus loin que ça.
Le père, la mère, le fils, vous jouez aussi avec l'ambiguïté entre la réalité et l'onirique ou même carrément le cauchemar. Est-ce qu'on est dans la tête de l'un de vos personnages ou est-ce qu'on est en train d'assister à une réalité? Quelle est où est la réalité finalement? Ça, c'est l'un des points communs que l'on peut voir dans les trois, même si le ressort n'est pas forcément le même. La maladie est très présente chez le père. La mère, on se demande si c'est pas Oedipe qui est plus présent qu'autre chose. Et quant au fils, c'est la crise d'adolescence, celle qui fait peur à tous les parents.
Au-delà de la crise, c'est...
Oui, t'as qu'à spoiler ce
moment. Non, il y a crise.
Oui, ça fait peur aux parents en tout cas, Delia. Toi, ça t'a fait peur.
Moi, ça m'a totalement angoissé. D'ailleurs, je ne vous remercie pas. C'était une totale angoisse.
Non, mais c'est
vraiment.
C'est vrai que ce qui m'intéresse en termes de. Comment dire, c'est de mettre le public dans une position un peu inédite où on est. Presque dans une caméra subjective de ce qui se passe sur scène. Et donc on a aussi peu d'informations que les personnages. C'est-à-dire on cherche presque à tâtons ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Et en effet, le père, ça parlait de l'extrême vieillesse ou d'un homme qui perdait ses repères ou peut-être d'Alzheimer.
On est très proche d'Alzheimer, oui.
Et du coup, le spectateur lui-même est déstabilisé dans son rapport au réel, ne sait plus exactement ce à quoi il peut se référer ou non.
Alors, ce qui m'avait totalement bouleversé pendant la représentation de la pièce avec Robert Hirsch, c'était l'évolution du décor, mais que l'on ressent avec les didascalies de votre écriture. Et on va continuer d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le père, la mère et le fils. C'est Florian Zeller qui est notre invité, mais d'abord... Connaissez-vous bien Florian Zeller? C'est ça ma première question. Que fait Florian en début de matinée? C'est plus
footing,
fort que ça.
Footing.
Il se réveille, mais il fait quelque chose qu'on rêverait tous de
il
faire.
Il se rendort.
Exactement.
Ah ouais.
Vous
cri du cœur.
Vous vous réveillez, vous vous recouchez. Ouais, moi aussi, je te raconte.
Ah, mais oui, il y a la trace de l'oreiller.
Est-ce que vous vous réveillez exprès pour pouvoir vous rendormir?
Ça, c'est suprême. Mais génial, Daniel.
Ça, je l'apprends en même temps que vous.
Non,
mais ouais.
Il semblerait que vous endormiez. D'abord, vous êtes insomniaque, vous endormez vers 4-5 heures du matin.
Alors, j'ai un petit peu changé, mais c'est vrai qu'à une époque, je me couchais très très tard, et comme il fallait pas que ça se... Je me levais, j'imagine que vous faites allusion à ça, je me levais parce que j'ai des enfants, il faut les
emmener à l'école. Pour accompagner à l'école, et vous rentrez, vous vous recouchez.
Voilà, exactement.
Bah voilà.
Jusqu'au et moment où c'est devenu difficile de le dissimuler.
Mais surtout qu'on arrive complètement dans le radar à l'école, quoi. C'est-à-dire qu'on sait pas si on les a déposés ou pas, on s'en souvient plus.
Quel rapport vous avez avec,
non,
la...
Ça, c'est toi,
avec la nuit? Est-ce que la nuit est propice à l'écriture?
En fait, pas tant que ça. Moi, j'ai l'impression de travailler à peu près tout le temps et j'adore travailler. Non, enfin, c'est une sorte d'addiction joyeuse au travail, à la rêverie. Et donc, ce qui est plutôt difficile, c'est de cesser de travailler. C'est pour ça que j'ai du mal à dormir.
Mais est-ce que le bruit, est-ce que le ciel, si vous avez la chance d'avoir un ciel étoilé au-dessus de vos têtes...
Vous n'avez pas de toit chez vous?
Non, mais vu la pollution à Paris, tu vois pas souvent le ciel étoilé, en tout cas. Et vu surtout, malheureusement, vu la lumière dégagée par la ville de Paris, on voit pas bien les étoiles. Enfin, bon,
donc la question, c'est est-ce
que vous avez besoin
aucun sens dans ce que tu
d'un, d'un environnement ou d'un contexte, d'un silence où vous travaillez en musique, où vous travaillez...
Non, je travaille plutôt en musique et puis seul en général. Ouais.
L'âge avançant, Florian Zeller est de moins en moins
actif.
Non.
Fêtard.
Inspiré.
Non.
Dormeur.
C'est l'inverse. Il est de moins en moins
feignant.
Non.
À sec. Il connaît de moins en moins la page blanche, il est de moins en moins...
Pas un rapport avec le travail, c'est plutôt avec la vie en société.
Sociable.
Ah bah non, plan-plan, enfin...
Ah.
Oui.
Asocial.
Non, casanier. Il est de moins... Ouais, alors... je prends le côté casanier, ouais. Moins en moins solitaire. Vous dites que vous étiez extrêmement solitaire avant, et que vous découvrez une vie sociale de votre regard, je crois qu'il y a encore sur les gens.
Non, en tout cas, j'ai découvert le théâtre.
C'est dans Marie-Claire que j'ai vu
c'est vraiment des sources très fiables. Non, mais ma grande passion, c'est le théâtre, et ce que j'aime notamment dans le théâtre, c'est la chance et la joie de partager une aventure, ou de faire partie de quelque chose de plus large que soi-même. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez, là, dans une émission de radio, qui est la même chose au théâtre, et je suis très heureux d'être avec d'autres.
Et de partager. Mais est-ce que vous avez une vie mondaine? Est-ce que vous aimez les sorties? Est-ce que vous aimez les dîners entre potes? Est-ce que vous aimez... des week-ends football?
Est-ce que vous aimez les gens, Florian?
Oui, j'aime les gens, mais je suis...
Mais mort!
Ou pas bien.
Et comme je suis vraiment très lié au théâtre, souvent j'aime aller au théâtre et dîner après au théâtre, être avec les acteurs. Quand il s'agit de mes pièces, je fais partie vraiment de ce qu'on appelle une troupe. Donc ça nous tire vers le soir et vers les dîners nocturnes.
Est-ce que justement ce genre de rencontre avec des acteurs, des metteurs en scène peut changer l'écriture? Est-ce qu'on se met à écrire pour quelqu'un?
Je pense que moi, personnellement, j'écris souvent en pensant à un acteur et pour m'offrir un peu le bonheur d'être avec quelqu'un que j'admire pendant quelques jours, quelques semaines. C'est une des choses qui, pour moi, est un moteur très fort, c'est-à-dire l'admiration, le fait d'aimer profondément un acteur et de se dire peut-être on va pouvoir partager une aventure ensemble.
Alors c'est arrivé avec Pierre Arditi, et notamment Florian a écrit une pièce pour lui, ce dernier a accepté, mais à une condition, laquelle?
C'est qu'il ne vienne pas dîner avec.
D'être seul.
Qu'il la mette en scène lui-même.
Non.
À une condition, que ça soit sur le vin.
Sur le
vin.
Ah non.
Non.
Ni la tauromachie, on
n'arrive pas là-dessus. Qu'il n'y ait pas de tournée, qu'il n'y ait pas de...
Non. Il dit ok,
que ça soit joué tôt.
J'accepte cette pièce. Alors c'est par rapport à un moment où c'est joué, oui.
En hiver ou en été?
Non.
Très court, un certain nombre de fois.
Non. Non, j'accepte, je fais cette pièce, mais...
Parce qu'il enchaîne souvent, Arditi, il fait plusieurs pièces, donc il en faut une à 19h, une à 21h, il faut que ça soit compatible avec son emploi du temps, que ça soit casable avec ses tournages.
Allez, c'est la meilleure réponse que j'ai jamais entendue dans cet exercice.
Bah, y a eu
c'est hyper technique, tout était bien...
Non, elle connaît le dos, mais c'est pas exact.
Moi, ce que je trouve fort, c'est qu'elle fait des réponses aussi longues que les questions de
Maïs. c'est ma stratégie.
Elle nous a noyés.
C'est comme ça, parce que je garde la parole, je continue, je défile, je déroule mon fil, en fait, plus personne ne me prend la parole, et je prends le point.
Quitte à dire n'importe quoi.
Très joli lapsus du 11 novembre. Hein. Au lieu de dire je déroule mon fil, elle a dit je défile. Comme ça, au moins.
C'est mon côté milouf.
On colle à la qualité.
Côté poilu.
C'est le côté milouf et quelle est l'autre moitié. Florian, pour en revenir à Pierre Arditi, il a accepté de jouer. Alors, c'était pas spécialement 19h, 21h, l'été et l'hiver. Il vous a demandé d'attendre pratiquement 2 ans avant de pouvoir jouer la pièce.
Oui, ce qui était à la fois. Il m'appelle pour me dire je viens de lire la pièce et j'ai 2 choses à te dire. Je veux absolument la jouer et je m'en serais bien tenu là. Il me dit mais par contre ça peut se faire que dans 2 ans, 2 ans et demi, ce qui à ce moment-là me semblait être je me disais mais est-ce que je serai encore vivant dans 2 ans, 2 ans et demi?
Est-ce que lui
non,
mais surtout, est-ce que vous auriez...
Mais c'est vrai qu'il est fatigué.
Est-ce que vous aurez encore envie de lui dans 2 ans et demi? Parce que si vous venez d'expliquer qu'il y a un lien...
Oui, mais c'est un acteur tellement formidable que bien sûr, c'est quelqu'un qu'on attend sans même hésiter 2 ans, 2 ans et demi.
Mais... Et là, vous aviez écrit pour lui?
J'avais écrit pour lui, et il y a une sorte d'impatience légitime à vouloir être joué, mais ça restait une très très bonne nouvelle pour moi à ce moment-là.
Comment faire quand on écrit en pensant à des acteurs pour renouveler le casting, quand il y a des problèmes pour la tournée? Là, je pense au Fils, où c'était le cas, où Yvan Attal n'a pas fait la suite, ou même a interrompu la représentation à Paris. Là, on se sent trahi, dépossédé du rôle, on cherche quelqu'un qui est le même en différent.
Enfin, mais déjà, il y a procès.
Alors c'est différent quand un acteur fait pas la tournée, c'est pas la même chose que quand un acteur arrête une exploitation.
Ouais.
Dans le cas d'Yvan, c'était un peu particulier. Il jouait le fils et c'était un rôle qui était vraiment très éprouvant. Et à un moment, c'est quelque chose dont il parlerait mieux lui-même que moi. Mais je crois que ça l'a tellement
physiquement atteint.
Ça l'a impacté.
Psychologiquement. Physiquement, le rôle était très dur à porter. Il l'a fait courageusement. Ça faisait plein d'échos dans sa vie personnelle. Et à un moment, je crois qu'il a mis un peu un genou à terre.
Si cette pièce a touché Daniel Morin, vous imaginez le mal que ça a pu faire à Yvan Attal, beaucoup plus sensible. Pourquoi Florian Zeller a lu l'intégrale de Milan Kundera?
Parce que c'est le seul bouquin qu'il avait à l'époque.
Non.
Pour séduire quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un, ouais.
Exactement.
Ça, c'est un truc de...
Pour citer Marie-Claire aussi.
Pour séduire.
C'est moi de travaux.
Non, c'est le Figaro.
Oui, non mais Kundera...
Ah, pas sur le Figaro, t'as vu, il fait une vanne sur Marie-Claire, mais pas sur le Figaro, on sait jamais.
C'est un écrivain que j'admire beaucoup, mais j'ai commencé à le lire parce que, en effet, mais c'était il y a très longtemps, j'étais amoureux d'une fille qui n'arrêtait pas de parler de Kundera, et je me suis dit que si je voulais parler avec cette fille, il fallait que je puisse parler de Kundera.
La seule question, évidemment, que tout le monde a envie de poser.
Et non, je ne suis pas sorti avec cette fille, mais par contre, j'ai découvert cet auteur qui m'a beaucoup impressionné.
L'œuvre est colossale, donc le temps de la finir pour...
Oui, il fallait être très motivé, mais cette fille était très très jeune.
Est-ce qu'elle serait vivante à la fin de...
Elle
a épousé Arditi en plus.
Le calcul, il est sauvage. Hein.
À quel autre auteur que lui, Florent Zeller, fait-il lire
Zeller
fait-il lire, je mélange un Zeller et Zeller, fait-il lire ses manuscrits?
Un auteur de théâtre, un dramaturge aussi?
Ouais, Sébastien Thierry.
Un homme?
Non, oui. Alors attendez, non, parce que c'est oui, un homme vivant, auteur de pièces, réalisateur, auteur de romans, récompensé aussi.
Éric Emmanuel Schmitt.
Non, la génération de Florian.
C'est difficile à dire, hein. C'est pas vraiment quel âge.
Ouais,
Zola,
Émile Louis.
Un auteur contemporain.
Qu'on a souvent reçu ici et que l'on adore et qui a une écriture formidable.
Nicolas Briançon.
Il écrit souvent. Qui écrit.
À toi, il t'écrit des textos. Voilà.
Donc, alors, il écrit, il réalise.
Ouais.
Et il y avait un troisième.
Il a fait des pièces de théâtre et des romans.
Oui.
Oui.
D'accord, bonne réponse.
Ouais, le même, ouais, moi c'est.
Michalik.
Non.
Merde.
Non,
c'est l'armistice.
Oui, c'est la même génération.
Un petit indice, il a fait un exercice de style pour l'un de ses livres absolument dingue, puisqu'il y a... Oh, là, si je vous dis ça, vous allez trouver.
Vas-y.
Une ligne, une phrase.
Funkinos.
Oui, exactement.
Vrai. Ça, je l'aurais eu mauvaise de pas l'avoir.
Vas-y, verse un peu de colère.
Ne jurez pas, Marie-Thérèse.
David Fuenquinos. Alors, je ne suis pas sûr de l'information, parce que là, c'était dans Marie-France que vous avez...
C'est une bonne information. Ah. David, on se connaît depuis, j'allais dire toujours, c'est faux, mais on a publié nos premiers romans en même temps, et on était, avant de publier, amis, on se faisait lire nos textes, et on a publié nos premiers romans à 2 jours d'intervalle.
Mais alors, sa valeur d'amitié, cette lecture-là, c'est un échange amical ou c'est carrément une espèce de correction entre auteurs en disant qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que la structure, l'humour, parce que c'est un auteur aussi...
C'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'il a, c'est quelqu'un qui a une extrême bienveillance, une grande sincérité. Enfin, j'ai une passion pour ce qu'il écrit et pour ce qu'il est aussi.
Et vous le laissez tout vous dire?
Oui, sinon ça n'a pas vraiment de sens, mais comme c'est avec de la bienveillance, tout est audible quand les gens vous veulent du bien et vous alertent. Et j'espère que c'est réciproque. Et on se voit toujours beaucoup. Et
il vous envoie aussi ses manuscrits et vous les lisez avant qu'ils soient joués. 10 ans après, par exemple, vous l'avez lu?
Oui, je l'ai lu il y a 10 ans. Non, mais si c'est vrai, c'est une pièce qu'il a écrite il y a 10 ans, qui s'appelle 10 ans après, qui va se jouer.
En janvier. Ouais. Et donc, cette espèce d'entre-gens d'auteurs, c'est un peu particulier. C'est confortable,
c'est
votre garde-fou.
C'est de l'amitié.
Ça vous rassure?
Oui, ça me rassure, ça nous nous stimule et c'est joyeux en fait parce que on a chacun suivi notre chemin, mais en se regardant, en s'appréciant, en s'encourageant.
Donc la délicatesse, et pour le film aussi, avec parce qu'il le co-réalisait avec son frère Stéphane Fuenquido, ce qui ne sera plus le cas d'ailleurs, je crois, pour la suite.
Le prochain, il va réaliser ça. J'étais moins dans ce processus-là. Ouais,
du cinéma, vous êtes plus dans le processus du théâtre.
Et du roman.
Oui. D'accord. Et ça sera la dernière question, quand il n'écrit pas, que fait Florian Zeller?
Il mange avec des acteurs.
Remarque,
c'est pas loin.
Il rêve.
Il fait du sport.
Non, la méditation.
Quand il n'écrit pas, que fait-il?
Il lit.
Il adore faire ça.
Je cherche, moi aussi.
Il regarde la télé.
Ouais. C'était dans quel magazine?
C'est dans le Figaro.
Dans le Figaro.
Il marche, il se promène, activité physique ou pas?
Non, il a besoin
de faire la cuisine,
de dormir, de respirer, de rien faire, de penser à rien.
Exactement, ouais. Exactement. Besoin.
Qu'est-ce que je fais?
Besoin de ne rien faire.
Ouais.
Vous dites j'ai.
Bah bienvenue chez nous.
Vous cherchez du boulot, on peut engager.
J'ai besoin de rêver, j'ai besoin de ne rien faire, j'ai besoin de.
En même temps, quand on travaille pas,
vous ne faites pas rien.
On fait rien, non?
Non, vous pourriez faire du sport, vous pourriez lire, vous documenter, je sais pas.
Pas bosser, quoi.
Vous pouvez avoir un métier.
C'est ça, oui.
Parlons donc de cette publication, Florian Zeller, Le père, la mère, le fils. Alors oui, il y a le texte. Je voulais juste évoquer les didascalies, parce que ces pièces ont été mises en scène, mais il y a beaucoup d'indications qui sont, en tout cas, publiées chez Gallimard. Est-ce que ce sont les publications faites après qu'elles aient été mises en scène, ou est-ce qu'elles étaient déjà écrites? Parce que c'est très précise que vous voulez
non,
sur la mise
déjà
en scène.
Écrites, oui. Elles étaient déjà écrites, et c'est vrai que ça fait partie du texte, les didascalies, mais il est vrai aussi que quand une pièce est mise en scène, quand on assiste à des répétitions, ça peut modifier des choses, c'est encore une étape du travail. Mais en l'occurrence, toutes ces didascalies, elles étaient consubstantielles à l'écriture.
Et comment choisir le metteur en scène?
Comme dans la vie, en prenant des risques, je veux dire, on peut tomber amoureux de quelqu'un et être déçu voilà, vous connaissez un peu. Et après dans les...
Je t'ai encore dit, hein, t'es pas obligé de rester inter. Hein.
C'est vrai.
Item, il peut rien.
À deux reprises, Ladislas Chola.
Et Ladislas Chola, oui, ouais. C'est un partenaire de travail que j'aime beaucoup, Ladislas Chola. On a fait 4 pièces, je crois, ensemble. Et il a un grand talent pour
c'est
diriger
lui qui a
les comédiens.
Les trois, le père, la
non,
mère.
Non, il a fait le père et le fils. Il avait pas fait la mère.
Qui était mise en scène par
Martial Difonzobo.
D'accord. Donc là, le choix du metteur en scène, ça peut être, vous dites, c'est comme une histoire d'amour. On se livre, on laisse quelqu'un prendre en main son bébé. Comment vous interpréterez la mise en scène?
Oui, on s'en met à quelqu'un,
auteur.
Mais en même temps, quand on est vivant, on a les avantages d'être vivant. C'est-à-dire, ouais. On est là, c'est une collaboration. On peut être en confrontation, en dialogue. Et il faut toujours mettre en scène une pièce contre la pièce. C'est-à-dire contre dans le double sens de ce mot, c'est-à-dire en s'appuyant dessus, mais aussi parfois en tentant de résister à elle. Et donc c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui a une distance par rapport à ça. C'est pour ça que c'est pour moi précieux d'avoir un metteur en scène et ne pas le faire moi-même, par exemple.
Alors le choix après de prendre les angles de ces pièces, un peu comme un journaliste, le père, la mère, le fils, vous avez pris l'angle de la maladie d'Alzheimer pour le père. La mère, il y a un rapport très très oedipien, freudien en tout cas au sein de cette famille. Et le fils, une crise d'adolescence extrêmement grave, poussée à l'extrême. Comment choisir cet angle-là? Parce qu'on peut parler d'un père, d'une mère et d'un fils sans aller forcément dans le drame ou dans les larmes et que vous arrivez à nous tirer. Et moi, pour avoir pleuré en ayant vu les pièces, c'est revenu en lisant,
Je me souviens pas m'être assis en choisissant un sujet. Par exemple, le père, je me suis pas dit, tiens, c'est un bon sujet, Alzheimer, il y a un truc à faire autour de ça.
Ah, quand même.
Non, c'est pour être très sincère, c'est ma grande motivation, c'était juste d'écrire quelque chose pour Robert Hirsch, qui est un acteur que j'adorais. Et je me suis dit, comment aller vers lui? Or, il se trouve qu'il avait 87 ans déjà à l'époque, et donc je pouvais pas lui écrire un rôle de jeune premier. Et je lui empruntais son corps, sa voix, sa façon singulière d'être au monde. Et en écrivant, j'ai réalisé que c'était de ça dont ça parlait, mais presque en toute innocence, en fait.
Justement, quand on écrit, on réalise après plein de choses, j'imagine. Vous, cette trilogie autour de la famille, ça vous fait réaliser quoi une fois qu'elle a existé, qu'elle a été posée?
Je ne saurais pas bien dire. En tout cas, ce qui me semble précieux pour moi, c'est d'avoir des émotions, de savoir les identifier et d'essayer de les mettre en forme et d'essayer de les partager. Le théâtre, c'est vraiment un art du partage, d'abord avec une équipe avec laquelle on passe des semaines et on travaille avec les moyens un petit peu modestes du théâtre. C'est pas grand-chose, le théâtre. C'est un bout de ficelle, un faux décor, une porte dont tout le monde sait qu'elle ne mène nulle part. C'est mais fou, avec ces faibles moyens-là, assez modestes, d'essayer d'inventer une histoire et d'aller à la rencontre du public. Et c'est cette rencontre que je trouve très, très belle.
Ces trois pièces sont aussi trois histoires d'échecs. Est-ce que c'est pour nous rendre encore plus, attendris ou attentionnés dans nos propres familles que vous nous envoyez des images d'échecs ou d'erreurs commises?
J'ai pas d'intention stratégique comme ça particulière, mais c'est vrai que, par exemple, dans Le Fils, c'est arrivé que des gens sortent de la pièce en me disant mon premier réflexe a été d'appeler mon fils ou ma fille pour lui dire oui, que je l'aime. Ça, c'est pour moi retour.
Pardon, c'est pareil pour le père et pour la mère. Oui.
À 23h, ils dorment quand ils sont au théâtre.
On sent pas indemne de ces pièces. Ça nous renvoie à nos propres rapports, déjà avec nos propres parents, voire nos enfants, mais par rapport à soi aussi, de se dire comment je vais vieillir, comment est-ce que je vais me retrouver en EHPAD, est-ce que je vais. Comment je vivrai la maladie, comment le regard des autres, l'abandon.
Tu t'en sors bien pour l'instant.
Ouais.
Non, mais ça, entre guillemets, si ça sert à quelque chose, le théâtre, ça sert un peu aussi à ça, c'est-à-dire à s'interroger sur soi, à voir une sorte de miroir parfois déformant dans lequel on essaie de se regarder, de se chercher, de rire de soi ou de se retrouver, et donc de sortir d'une représentation chargée de quelque chose et d'une émotion vibrante et vivante.
Quand vous refermez le livre, vous avez juste envie de faire un énorme câlin. Après, vous verrez bien à qui vous le ferez autour de vous, mais ça dégage cette envie-là.
Le problème, c'est que Nagui l'a lu au bureau. Et on y est tous passés.
Tom Villa va vous poser des questions et vous n'aurez pas à y répondre. Voici Tom Villa.
Oui, Florian, je m'occupe de tout, ça va très bien se passer. En tout cas, très heureux de vous accueillir dans l'émission. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on reçoit un auteur et un dramaturge aussi renommé que vous.
I'm Florian Zeller. I'm a playwright. I'm from France.
Ah, ça y est, monsieur a deux pièces. Moi, t'es joué à Broadway, ça parle anglais, d'accord. Moi, j'ai joué à Valenciennes. C'est pas pour ça que je parle ch'ti, hein. En plus, on vous a déjà présenté dans l'émission. On a déjà parlé de votre travail. Donc.
Et en me réveillant, je me suis dit, ça parlait donc de ça.
Mais il faut vraiment la faire plus tard, l'émission, parce que les gens s'endorment très facilement. C'est très compliqué. Ouais, mais bon, ça va, vous, Florian, sinon vous êtes bien chez nous ?
À un endroit où j'ai pas vocation à être.
Oui, bah comme nous tous. Hein, et puis on fait avec. Hein.
J'ai pas de spécialité ou de compétences particulières.
Bah comme nous tous. Hein, et puis on fait avec. Hein. Alors juste, je voudrais me servir du fait qu'on reçoive un grand auteur, si vous l'acceptez, Nagui. Florian, si vous deviez me conseiller un livre.
Il y en a un, c'est le dictionnaire.
Oui, il a raison.
Je suis pas sûr de bien le prendre.
Si. Il a raison.
Très bien. Non mais sinon, un conseil, un truc, je sais pas, un truc un peu épais, avec du corps.
L'assommoir, par exemple, de Zola.
Ah oui, l'assommoir de Zola, ouais, là, il y a beaucoup de corps. Là, Non mais un truc avec du corps, mais un peu moins.
Titeuf, je pense que ça pète bien.
Ça me correspond très bien, vous m'avez bien cerné. Ça, c'est...
Je suis producteur de cinéma, j'écris un scénario en ce moment, c'est pour toi.
Oh, bah c'est gentil. Doucement, ça sent le mitou quand même. Hein. Mais c'est quoi comme proposition là, par exemple, c'est quoi l'histoire?
Tout ce qu'une mère a envie d'entendre de la bouche de son fils.
Ah, ok, bah, cool. Et donc le fils est le narrateur, et il lui raconte quoi à sa maman?
Il lui raconte justement ses virées dans les bordels du Caire.
Ah, cool. Un hommage à Nagui en plus. Et il lui raconte quoi d'autre?
Il fait un détour par les partouzes de Paris.
Ah cool, un hommage à Nagui. Et donc, c'est important les voyages. Alors justement, en parlant de Nagui, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà?
Sa seule présence est miraculeuse.
Ouais. Comment le résumer?
Quelque chose d'intense qui prend feu.
Et oui, c'est pour ça qu'on l'appelle la bûche. En vrai, Florian, comment on appelle ce que vous êtes en train de faire là?
On appelle ça, l'hypocrisie.
Et voilà. Et ça, c'est de l'honnêteté. Allez, bonne émission.
Merci,
Damien. La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais savoir si tu jouais ce week-end.
Pas ce week-end, mais le week-end prochain, je joue. C'est très gentil, à Marseille, jeudi, vendredi, samedi prochain, au Quai du Rire.
Prochain, donc on sera. T'as les numéros qui correspondent.
19, 20, 21 novembre.
Voilà, très bien.
Les nominés sont.
Florian Zeller, on parlait tout à l'heure de votre. De l'écoute avec David Fuenquinos. Vous précisiez sur votre amitié avec David Fuenquinos, au-delà de son talent d'auteur, un rapport à la comédie. On peut pas dire que la première chose que l'on fasse, même s'il y a des moments drôles, c'est d'éclater de rire dans Le Père, la Mère ou le Fils.
C'est vrai.
L'humour n'est pas le cœur de la pièce. Il y a quelques vannes qui sont là, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans l'écriture, on se rapproche d'un rythme de comédie. C'est-à-dire que les phrases sont courtes, extrêmement rythmées, percutantes. Elles se croisent, elles s'entrechoquent aussi. Donc je voulais savoir s'il y avait un style d'écriture comique, même si le fond lui-même ne l'est pas.
Je saurais pas bien dire, mais pour moi c'est un peu la même chose. J'ai écrit aussi des comédies et j'ai l'impression que c'est exactement le même travail. C'est-à-dire c'est pour moi c'est la même chose en fait. D'écrire une tragédie, un drame ou une comédie, c'est de tenter de raconter une histoire de chercher un matériau de jeu pour les comédiens. Je trouve que c'est en fait exactement la même chose. Il y a un rapport ludique à l'écriture, même quand on raconte, quand on écrit quelque chose de qui n'est pas drôle.
Le père, la mère, le fils, quelle est l'une des réflexions les plus touchantes que vous ayez entendues par un spectateur, une spectatrice ou quelqu'un de connu, peu importe, mais après être sorti d'une de vos pièces?
Mais par exemple, quand le père a été créé, tout le monde avait un peu peur, surtout les producteurs, parce qu'on se dit, oulala, ce sujet-là, personne n'a envie d'aller au théâtre pour s'infliger ça. Et on est arrivé un peu pas trop confiant du succès que pourrait éventuellement avoir ou ne pas avoir cette pièce. Et moi j'ai été très surpris de voir à quel point les gens restaient beaucoup après pour parler de leur propre histoire qui faisait écho à ce qu'on racontait.
Ah non, mais totalement.
Et il y avait quelque chose de nouveau pour moi, enfin, de découvrir à quel point justement le théâtre permettait ce partage-là.
Mais ouais. Vous m'avez offert l'un des plus beaux moments de ma vie, sortir de la pièce en larmes, avoir la possibilité d'aller dans les coulisses et prendre dans ses bras Robert Hirsch, parce que c'est le premier truc qu'on a envie de faire. Et c'est une chance, c'était un bonheur, c'est de lui faire un câlin après tout ce qu'il subit pendant cette pièce, le pauvre.
Le pauvre, en plus, il est obligé de se taper Nagui qui fait un câlin. Oh, la double peine.
Bah, je vais te dire la vérité, quand je suis arrivé, j'ai simplement tendu la main et c'est lui qui était, qui a fait, voilà.
Non, il tombait.
Un hug. Un joli hug. C'est toujours de l'émotion de repenser à ce grand comédien qui était Robert Hirsch.
Ouais, c'est vrai que vous avez quand même un peu ouvert la voie, je crois, dans les thématiques de théâtre à des choses plus contemporaines, de société. C'est quelque chose qu'on voit davantage apparaître maintenant quand je pense au travail d'Andréa Bescon et de Éric Métayer, c'est ça,
ouais.
qui vont questionner des choses de l'ordre des problèmes de société ou des difficultés. Déjà, avec le père, quand vous évoquez qui est la maladie d'Alzheimer, en toile de fond, il y avait déjà cette prise avec le réel, qui n'était pas vraiment une tendance dans le théâtre français, j'ai la sensation.
Je ne saurais pas bien dire, ouais. Mais en tout cas, je trouve que...
Vous vous rendez compte que vous commencez toutes vos réponses par je ne sais pas comment dire, je ne sais pas bien dire.
Mais c'est parce que en réalité je ne sais pas et j'ai pas de pensée par rapport à ça. J'essaie de pas penser ce que je fais. Je suis quelque chose de plus obscur, de l'ordre du désir. Oui. En fait.
Florian, la maladie d'Alzheimer, la première chose que disent ceux qui ont été de près ou de loin touchés par cette maladie ou qui ont eu un membre de leur famille touché par cette maladie, c'est de dire à quel point justement elle est destructrice pour toute la famille. Et ça, on ne peut pas l'aborder. Sans l'avoir justement touché de près ou l'avoir connu ou l'avoir vécu, c'est-à-dire le mal que cette maladie fait évidemment aux malades, mais surtout par écho à tous ceux qui sont autour.
Oui, bien sûr. Et moi, je connaissais un petit peu ça grâce à travers ma grand-mère plutôt, comme chacun d'une façon ou d'une autre est connecté à ce genre de problématique. C'est une des maladies les plus terrifiantes et les plus répandues de cette époque. Donc je pense qu'on est tous connectés avec ça. Et quand on a créé la pièce avec Robert Hirsch, c'était très troublant parce qu'il y avait une sorte de confusion pour nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire avec Ladislas Chola, le metteur en scène, mais aussi tous les autres acteurs, entre l'histoire qu'on essayait de raconter et ce qu'on éprouvait et vivait à ses côtés. Il était à un moment très fragilisé de sa vie où il tanguait sur scène. On savait jamais s'il allait tomber, et quand il tombait, c'était quelqu'un qui tombait souvent, Robert Hirsch, et qui se relevait toujours, il avait une énergie considérable, et parfois, c'est arrivé dans des représentations qui tombent véritablement et que l'acteur, l'interprète en face, le relève, et les gens, à la fin, venaient nous voir en disant, qu'est-ce qu'il est incroyable, mais quand même, qu'est-ce que vous lui demandez de faire, les cascades, il tombe, etc. C'est-à-dire, il poussait cette incarnation jusqu'aux limites. Parfois, on avait l'impression qu'il était en train de disparaître ou de mourir devant nous.
Et pour un acteur, jouer une maladie, évidemment, c'est une difficulté, une prouesse, mais une maladie sur la mémoire. Ouais.
C'est le paradoxe, parce que pour jouer ça, il fallait une mémoire considérable. Il avait une mémoire, j'emploie le passé malheureusement, parce que Robert Hirsch
nous a quittés,
mais il avait une mémoire incroyable, avec l'angoisse inévitable de perdre cette mémoire. Mais c'est un métier très étonnant. Il a joué jusqu'à 94 ans. Quel métier permet de, si tard, de jouer, de vivre des rendez-vous forts, d'avoir des moments de tension, d'angoisse, de réjouissance, de partage? Il n'y en a pas beaucoup des métiers qui offrent ça. Et lui, il est allé au bout de cette possibilité-là.
C'est publié chez Gallimard, le père, la mère et le fils ingrat, le voici, c'est Guillaume.
Ça va les amigos?
Ouais.
Alors, bon, on est lundi, je sais, on dirait pas comme ça. Ce matin, il y a une lumière qui fait très mercredi, je trouve, ce matin.
C'est vrai que c'est une lumière de mercredi.
En plus, on est lundi 11 novembre. Donc, déjà, bonne fête aux obus et au matériel de guerre, puisqu'il y a baïonnette, casque en pointe.
Un peu de respect.
Mais soit, on est le 11 novembre, figurez-vous, c'est la Saint-Martin qui dit Saint-Martin, dit Martin. Martin, Jacques Martin, télévision, technologie. Et j'avais justement envie de parler de technologie ce matin. C'est assez fou parce que c'est des coïncidences.
C'est bon enchaînement, toi.
C'est des coïncidences. Tu te dis, mais est-ce qu'on est si seul dans l'univers? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un grand horloger qui te distribue les cartes et qui te dit à l'oreille ton intro, elle est pas ouf, enchaîne. Peut-être. En attendant, j'ai lu que Samsung mettait déjà le paquet en ce moment sur la technologie Wicca. Alors, la technologie Wicca, à ne pas confondre avec la technologie Webus. Je viens de Belgique, hein. On prononce pareil. Vous voyez ce que c'est la télé Wicca ou pas?
Non.
Alors, télé Wicca, c'est plus net que la télé 4K, évidemment, mais c'est 16 fois la résolution d'une télé Full HD. Vous avez déjà vu une télé Full HD?
Oui.
On voit bien, hein. On voit vraiment bien. L'autre jour, je regardais Cache Investigation, ça, j'avais l'impression qu'Élise Lucet était vraiment là, quoi. Elle me faisait, vous allez tout me dire, désolé, Élise. J'étais de la distraction. Franchement, j'ai passé ma soirée à déclarer ce que je devais au fisc et tout. Heureusement que sur Inter, c'est pas des grosses sommes, quand même. Mais Élise, je la voyais tapée dans un coin de l'écran, insatisfaite. Bref. Et à un moment, c'est impressionnant, la télé Full HD. D'où question, est-ce qu'on pourrait pas se dire que là, c'est bon, la télé, c'est assez net, quoi. Enfin, je veux dire, en plus en 2019, c'est quoi la télé en 2019? Dans les grandes lignes, c'est 40% d'images de Nagui déjà et 60% de reportages en immersion avec la BAC d'Antibes. Tu vois vraiment? Genre, il est 6h du matin, la police en profite pour lancer une perquisition. Trouvera-t-elle quelque chose chez l'ancien animateur préféré des Français?
Est-ce qu'on a besoin
de voir Nagui encore mieux? Vraie question. Nagui, moi je le vois en vrai une fois par semaine, je mettrais bien du placement entre nous, je peux te dire, et c'est pas qu'une question d'haleine. Hein. À un moment, ça vient, tu pourrais dire, c'est bon! On voit bien, c'est bien la télé, non? Parce que pendant 10 ans, tu sais quoi, viens, on utilise le cerveau des ingénieurs pour régler des trucs plus importants, quoi. Je sais pas, le plastique dans les océans, le climat, le cancer. Imagine, t'es dans ta chambre d'hôpital, c'est ta 9e chimio, t'en peux plus, t'espères que la médecine va progresser. Là, t'allumes la télé et tu vois un robot teckel qui fait du breakdance. Avec deux chercheurs qui font à 100 000 $ près, on lui faisait faire des cannellonis. Alors, super! Tu vois bien? Ça va parce que c'est en Wicca, tu vois. Waouh, on voit trop bien comment je vais mourir. Non, mais vraiment, sérieux, on a des gens brillants sur le plan analytique qui pourraient être plus utiles à l'espèce qu'en construisant des téloges, quoi.
C'est vrai,
je vous le dis, si on doit compter sur moi pour une solution contre le cancer, on est pas dans la merde, je peux te dire. Docteur Ernesto, qu'est-ce que je dois faire pour mon lymphome? Je sais pas, 5 fruits et légumes par jour. Si c'est possible, un supplément salade dans votre kebab. Merci docteur. Non, je sais pas. Je mélange tout, le visuel, la robotique, la médecine, je mélange tout. Mais c'est férié aujourd'hui, vous avez le temps de faire le tri, démerdez-vous. Et de toute façon, on va avoir la 5G en France bientôt, c'est génial. C'est génial. Qui n'a jamais rêvé de télécharger 16 gigas de porno dans le RERC? Voilà, parfois ton voisin, il a pas envie de parler avec toi, t'es obligé de t'occuper. Mais la 5G, c'est bon, quoi. Maintenant, on l'installe partout dans le monde, puis on arrête pendant 10 ans, tu vois. Parce que là, dans 2 ans, il y a Apple qui va faire, oui, mais c'est la 6G. La 6G, ça, c'est la révolution qu'on attendait tous. Par contre, ça fonctionne pas sur l'iPhone 13, faudra acheter l'iPhone 14. Il a 2 700 € plus 160 pour les nouveaux chargeurs et les nouveaux écouteurs. Putain, et ça dénonce, hein, t'as vu, quoi. En attendant, je suppose qu'il y a des ingénieurs qui sont déjà sur la 7G, c'est sûrement formidable, mais j'ai qu'un conseil à leur donner, un supplément salade dans le kebab. Bonne émission.
Merci, Guillaume.
La bande originale.
Sans parler de toute la pollution que ça engendre, ce truc-là. C'est l'un des, à mon avis, des problèmes de la 5G aussi. C'est que ça pollue et que c'est très, très, très mauvais pour la santé.
Potentiellement nocif.
Exactement.
Ouais. Oui, et puis même pour le streaming et tout. Je lisais que le streaming, le VOD, Netflix, etc., tu sais que ça pollue autant que l'équivalent de l'Espagne.
Exactement.
Donc là, c'est très grave.
Les serveurs, les ordinateurs qui tournent en permanence, ça pollue autant
qu'un
pays entier.
C'est un nouveau continent, oui.
La musique, vous travaillez en musique, Florent Zeller, quel genre de musique écoutez-vous quand vous travaillez? Est-ce que c'est une musique qui détermine votre humeur?
J'écoute souvent de la musique, ça dépend. Enfin, je suis très obsessionnel, donc en général, quand j'écoute une musique, j'écoute tout le temps la même. Donc je me suis acheté un casque.
Est-ce qu'elle doit être classique pour ne pas avoir de paroles et pour ne pas troubler votre écriture?
Plutôt, par exemple, j'écoute beaucoup en ce moment Philip Glass.
Ouais.
Voilà, mais ça dépend. Mais je suis pas sûr que ça influence vraiment l'écriture, mais c'est vrai que j'ai travaillé souvent en musique.
En 79, au moment de votre naissance, la bande originale de Florent Zeller avait cette musique. troisième leçon des ténèbres.
Ouais, c'est joli comme titre, les leçons des ténèbres de Couperin. Couperin, c'est un de mes compositeurs préférés, baroque, j'ai une fascination pour lui. Et pourquoi bon, évidemment, je ne l'écoutais pas quand j'étais petit, mais ma mère chantait, et dans mes souvenirs les plus anciens, comme ça, j'ai le souvenir d'une voix qui est celle de ma mère, et j'ai cristallisé comme ça sur la passion pour les voix. Et je suis sûr que c'est lié à ma passion pour les acteurs.
Mais comment vous en êtes arrivé à ce morceau en particulier ? Le classique faisait partie de votre univers enfant ou pas ?
Pas tant que ça, mais là c'était plutôt le baroque, et c'est parce que c'est un des compositeurs que j'aime le plus.
D'accord. Quand on revient sur votre enfance, quand on vous demandait dans quoi vous vouliez travailler, je crois qu'il y a une scène qui a cristallisé aussi un moment important de votre enfance. Vous avez répondu à un prof de français : « J'aimerais travailler dans la poésie ». Est-ce que vous vous souvenez, vous avez raconté ça dans Marie-France?
j'aurais dû ne refuser cette interview
non,
à l'époque.
Non, c'est Libé.
Mais d'abord, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est demander à travailler
Vous voulez faire un stage en poésie.
Ah oui, d'accord, mais merci de me rappeler ça. C'est vrai, je m'en souviens maintenant. C'est en troisième, vous vous souvenez, en troisième, on fait des stages. Et j'étais le seul dans la classe à ne pas avoir trouvé mon stage. Et souvent, on demande à son père, à sa mère de nous aider à trouver quelque chose. Et j'étais le seul à ne pas avoir trouvé de stage. Et cette conseillère a dit, mais alors vous, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Dans quoi vous voulez travailler? Peut-être que je pourrais vous aider. Et elle m'a demandé de me lever. J'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la poésie. Et elle s'est mise à rire, et tout le monde s'est mis à rire. C'était pas très méchant, mais quand j'ai publié mon premier roman, j'ai pensé à elle.
Forcément, il y a des petites revanches qui reviennent. Et vous écrivez très tôt votre première pièce de théâtre. Il faudrait bien lui dire non, vous aviez 16 ans. Vous n'alliez pas spécialement beaucoup au théâtre, vous ne lisiez pas forcément non plus beaucoup. Mais c'est le thème de la pièce me fait dire qu'il y avait un message à envoyer à votre paternel.
C'était l'histoire de... À l'époque, j'étais terrifié, je crois, de pas avoir le courage de faire ce que je rêvais de faire, qui était d'écrire. Et je me suis dit, je sentais que je pouvais facilement me laisser emporter ou avoir par une autre vie, en fait.
D'accord.
Et donc, cette pièce, qui était sans doute très mauvaise, d'ailleurs, j'ai eu la bonne idée de la perdre et je l'ai jamais relue.
Ah,
mais je me souviens que c'était d'essayer de
suivre le chemin qu'on a décidé de suivre.
Ouais. Voilà. C'est ce qui me faisait le plus peur, mais je pense que ça fait peur à tout le monde, en fait. Quand on est censé un peu s'avancer vers soi-même et faire des choix, de pas oser aller vers soi-même.
Mais aussi d'être persévérant, de ne pas abandonner au moindre obstacle, non ? Ça joue ?
Ça joue, oui.
Vous pensez être persévérant dans la vie ?
Je crois, oui. J'ai la chance d'être obsessionnel, et donc...
gardez ça pour Psychologie Magazine.
Et donc, ouais, non, je lâche pas les choses qui me font vivre.
Ouais, parce que c'est pas commun à 16 ans de se dire, tiens, je ne veux pas dévier. Avoir cette conscience-là et ce questionnement-là, c'est pas complètement commun à 16 ans.
Et puis de savoir ce que l'on veut, surtout à 16 ans aussi.
Oui, enfin, je savais de façon très floue ce que je voulais. Mais j'avais un rêve, je savais pas du tout que c'était un rêve réaliste, en fait. D'écrire, ça voulait pas dire quelque chose de très... Oui. Je savais même pas vraiment que ça existait, les écrivains contemporains, vivants, etc. J'avais beaucoup de choses que j'ignorais. Mais j'avais un rêve et j'avais très peur de pas avoir le courage de le poursuivre.
En 2002, vous écoutiez Florent Zeller.
Florent Pagny.
Son ami, Pavarotti. Cette musique, quand vous l'entendez, qu'est-ce que...
En fait, je ne sais pas si je l'écoutais vraiment, cette musique-là, mais elle m'évoque de la nostalgie. Elle est très, 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 ouais, très triste. Et je me souviens qu'à 20 ans, comme plein de gens de 20 ans, j'étais paradoxalement très nostalgique, ce qui est curieux, parce qu'à 20 ans, on a tout devant soi. Et je me souviens que j'étais très, très écrasé par ce sentiment de nostalgie. Comme si j'avais vieilli un peu à l'envers, c'est-à-dire... ça m'a pris des années pour me libérer de ce faux sentiment qui nous ligote à l'idée que l'enfance était un moment plus doux. Et
peut-être que le divorce des parents n'a pas aidé non plus à vivre l'enfance dans la douceur.
Non, c'est juste une sorte de... C'est chimique, en fait, je crois, d'être tenu par la mélancolie. Et on met des années, je trouve, à s'en libérer, c'est-à-dire à...
Ou pas.
Ou pas. mais je trouve que c'est toujours un paradoxe... intéressant à 20 ans d'être nostalgique.
Et à 20 ans, un peu plus de 20 ans, vous publiez votre premier roman, Neiges artificielles, qui reçoit un prix. C'est un livre, là aussi, par sa thématique, qui nous emmène sur des réflexions un peu philosophiques, sur la mort, sur la vie, sur... c'était vos préoccupations du moment.
Oui, c'est ça, j'étais encore dans cette prison de la nostalgie, dont j'ai mis des années à me libérer, et je trouve que c'est une prison dont il est joyeux de se libérer, parce que c'est pas des pensées très, très lumineuses, en fait. Mais il y a des gens qui sont très armés pour vivre, et moi, je faisais partie des gens qui étaient moins armés, je dirais. Je sais pas, il y a certaines personnes qui ont ce talent particulier pour être joyeux,
le bonheur,
indépendamment des difficultés.
Ils sont quoi, inconscients pour vous ?
Non, je pense qu'ils ont même pas tellement de mérite, en fait. On est constitué comme ça. Moi, je crois beaucoup à la biochimie. Oui. Et je crois qu'il y a des gens qui sont mieux fabriqués pour...
qui ont une aptitude au bonheur.
Ouais, ou à la joie. Le bonheur, c'est encore autre chose. Mais, et moi, j'admire beaucoup ceux qui sont construits ainsi. Et j'essaie de m'entourer de ces gens-là. Mmh. Je trouve que ce sont ceux qui nous réjouissent d'être en vie.
Ouais, et puis il y a aussi ceux qui se servent de ce jeu-là ou de ce comportement-là comme d'un bouclier, d'une protection pour ne pas se révéler. Et puis à l'inverse, il y a ceux aussi qui rajoutent dans peut-être la nostalgie ou la mélancolie pour se donner une profondeur qu'ils recherchent.
Voilà, oui, peut-être, mais je crois qu'on est toujours un peu victime de qui on est profondément. Quoi. Mmh. Et tant qu'à faire, il vaut mieux être du côté des joyeux.
En 2003, vous écoutiez Florence Zeller.
Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan.
C'est beau. C'est beau. Alors là, c'est aussi bien Gérard Depardieu que Jean-Paul Scarpita qui...
Ouais. Ah, c'est pas totalement vrai, parce que ça, c'est donc Depardieu qui chante. C'était il y a quelques années, c'était au Cirque d'Hiver, c'était en live, c'était très très beau. Donc je l'écoutais pas à ce moment-là.
Je crois savoir qu'ils reviennent faire ce spectacle au mois d'avril au Théâtre des Champs-Élysées.
Je sais pas si vous l'aviez vu, Nagui, c'est vraiment très 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 beau.
Sublime.
Et dans ces années-là, 2002-2003 dont vous parliez, c'est la première fois que j'ai travaillé avec un comédien, et c'était Depardieu, c'était le livret d'un opéra, et je me souviens de la première fois que j'ai eu cet échange avec un comédien. C'était lui que j'adorais dans l'adolescence pour tous les films que j'avais pu voir comme d'autres, et j'ai ressenti quand je suis allé voir le concert de Barbara la même chose que ce que j'avais ressenti, c'est-à-dire la puissance absolue d'un être très singulier. Je crois que moi, ça m'a complètement emporté dans l'amour des comédiens.
La puissance et la fragilité. Toutes les fêlures qui légitimisent d'ailleurs son interprétation de Barbara, parce que d'autres s'y sont frottés avec moins de bonheur, mais chanter Barbara avec tout ce qu'elle avait vécu et tout ce qu'elle faisait passer dans ses paroles, dans son interprétation, il faut avoir un vécu aussi, une fragilité et des...
Ou quelque chose de rare. Depardieu, il a toujours eu ça, même jeune. C'est-à-dire, il a ce corps qui vient en contradiction absolue de tout ce qu'on pressent de son âme dans sa voix et dans son regard. C'est-à-dire, il y a une puissance et une force, et conjointement à ça, une fragilité très déroutante. Enfin, c'est pour ça que c'est un instrument et un artiste d'une beauté rare.
Et commencer avec lui, ça doit être quelque chose. Tout d'un coup, se dire que la première rencontre avec un comédien, c'est lui.
Oui, c'était très impressionnant. J'avais très peur. Ouais. Mais c'était bon, c'était pas une pièce de théâtre, c'était un livret d'opéra. C'est une sorte de petite pièce de théâtre dans un grand opéra où il y avait des danseurs, des gens du cirque. Enfin, c'était une aventure très, très, très grande. Mais j'ai été très heureux, et c'est en fait ça qui m'a emmené vers le théâtre.
Justement, théâtre en 2014-2015, on va évoquer Le Père. Vous écoutiez à ce moment-là.
Oui, c'est Hans Zimmer qui fait la musique de Interstellar. En fait, parce que le film sort à ce moment-là, je crois en 2014. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, ce film. Et moi, j'ai beaucoup réagi à ce film-là. Je trouve que le plus grand des mystères, c'est celui de l'espace. Et si j'avais pas écrit, j'aurais rêvé d'être je sais pas, disons, cosmonaute.
2014-2015, on en arrive donc au théâtre. Le père est primé, il reçoit le Molière de la meilleure pièce de théâtre privé. Robert Hirsch, Isabelle Gélinas aussi sont récompensés. Donc là, c'est un carton plein. Quand on écrit un texte comme ça et qu'on offre des récompenses aussi à ses interprètes, ça doit être une forme d'aboutissement absolu.
Oui, quand je dis tout à l'heure, c'est une aventure collective. Donc, oui.
Et tout le monde est récompensé, là, c'est pas simplement le texte.
C'est vrai, mais c'est parce qu'on se devait aux uns et aux autres quelque chose, et c'était un grand moment de bonheur.
Et Catherine Hegel avait déjà aussi été récompensée.
Était récompensée absolument pour la mère. Toutes les pièces à chaque fois sont saluées par la critique. On parle de cinéma et on parle du coup de l'adaptation aussi du père, adapté sur grand écran par Philippe Leguet, avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlin. Là aussi, voir son texte être transformé avec d'autres interprètes. Est-ce que, comme je vois que vous êtes très précis sur les didascalies, que vous laissez le texte, mais en même temps vous donnez quand même des indications assez claires, est-ce que de s'en voir un peu dépossédé pour aller au cinéma, ça a été quelque chose de douloureux?
Non, douloureux pas du tout, mais j'étais très loin de cette aventure-là.
Ouais.
Mais c'est sûr que c'était...
Vous regrettez ?
Non, mais après, j'ai fait une adaptation du père, une autre adaptation, donc j'avais envie de participer à ça. Mais en revanche, j'étais heureux de rencontrer Rochefort parce que je l'adorais. Je me souviens d'un soir où il est venu voir la pièce, elle était encore en train de se jouer, et il est venu ensuite dans les loges, comme vous, et il a pris Robert Hirsch dans les bras.
Et évidemment, le pauvre.
C'était un moment très, très, très beau, en tout cas pour moi, de voir ces deux grands messieurs qui s'embrassaient autour d'un rôle qu'ils allaient l'un et l'autre incarner.
Jérôme Béglé nous a rejoint. Bonjour, Jérôme.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes rédacteur en chef du Point. Comment définir Florian Zeller? C'est une espèce d'ovni dans ce...
Ovni, non,
dans
mais
théâtre.
D'abord, le dramaturge, c'est un dramaturge qui est très spécifique. C'est-à-dire que c'est un peu le théâtre de l'intelligence des situations. Finalement, les relations amoureuses, la vérité, le mensonge, ça peut paraître banal. Ce sont des thèmes qui ont déjà été traités, mais il a un regard particulier là-dessus qui n'est pas celui de Molière, qui n'est pas celui de Pinter, qui n'est pas celui de Beaumarchais, qui n'est pas celui de Guitry. Et c'est ce qui fait que c'est un dramaturge international, c'est qu'il n'y a pas forcément une touche française là-dessus. Simplement, on se reconnaît dans les situations. Et donc, elles sont accessibles, elles sont admissibles à Rome, à Paris, à New York et à Tokyo. Et ça, c'est vrai que des artistes français, quels qu'ils soient, qui arrivent à avoir une carrière internationale, il y en a assez peu en France, hormis les architectes et les cuisiniers, quoi.
Est-ce que puis vous faites des analogies avec d'autres métiers, est-ce que comme dans la musique avec des bergers ou des Goldman, il y a dans le théâtre des Zeller, des Foenkinos, des faiseurs de tubes aussi, des faiseurs de pièces à succès?
C'est-à-dire qu'un tube, on a un peu l'impression que ce sont les mêmes recettes qui sont appliquées et dupliquées éternellement. Or, entre...
Jean-Jacques Goldman va bien prendre ce que vous venez de dire.
Non, mais j'ai dit l'impression. Hein, donc j'ai pas... entre le fils et la vérité, on est dans des univers extrêmement différents. Avant de s'envoler et Elle t'attend, on est dans des univers très différents. C'est-à-dire que Florian Zeller, c'est la comédie, la vérité, le mensonge, c'est le drame et c'est parfois même la tragédie. Donc je pense pas que dans la façon d'écrire ou dans les thèmes abordés, ce soit des tubes. En revanche, il y a des points communs dans les pièces. C'est un peu la mise en abîme ou la construction labyrinthique, c'est-à-dire qu'il perd le spectateur, il perd même parfois un peu l'acteur, mais il laisse à chaque fois des petits cailloux blancs, et après on ne sait plus quelle est la vérité du mensonge, justement, de ce qu'on voit, et à la fin, tout d'un coup, hop, la vérité revient à nous. C'est plutôt dans la façon d'écrire qu'il pourrait y avoir une espèce de mimétisme de tube.
Mais en tout cas, il y a une assurance peut-être pour des directeurs de théâtre de se dire... Si la nouvelle pièce de Florian Zeller se joue chez moi, j'ai plus de chances de remplir ma salle que si c'est une pièce jouée par Daniel Morin. Donc est-ce que...
C'est très injuste pour Daniel Morin.
Merci beaucoup.
Non, il écrit bien.
Et ce tacle gratuit le blesse profondément. D'ailleurs, il est en train de quitter la table. Il en a renversé sa canette. Non. Bon. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il peut y avoir des drames derrière.
Donc, il a le défaut de consommer une espèce de boisson gazeuse qui est partie comme du champagne, d'ailleurs, parce qu'il a renversé, ça a explosé dans le studio.
Bon, non, ce qui est vrai, c'est que quand on vous avait écrit 12 pièces en 14 ans ou 15 ans, ça veut dire qu'il y a une demande. Il y a une demande du public, il y a une demande des comédiens, il y a une demande des patrons de théâtre.
Est-ce qu'il y a des commandes en plus des demandes?
Ah, j'en sais rien, mais j'imagine qu'un directeur de théâtre doit dire « Ouh là là, c'est bon d'avoir Zeller parce que je vais remplir ma salle pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, ce qui à Paris n'est pas forcément très courant. »
C'est
en
clair.
Fait, pour une pièce de théâtre, c'est assez compliqué à monter parce qu'il faut d'abord le texte, bon, mais après, il faut avoir le casting que l'on veut, il faut avoir le producteur, il faut avoir le metteur en scène, il faut avoir le théâtre. Et tout ça doit se retrouver dans le même espace-temps. Et c'est vrai que lorsque on sait qu'on peut marquer Zeller sur le haut de l'affiche et qu'en plus derrière, il y a des prestigieux comédiens que vous avez rappelés en début d'émission, bah, ça aide pour monter un spectacle. Mais c'est pas ça aussi qui est la garantie d'une pièce qui va se remplir, et c'est pas ça non plus qui fait qu'il est joué dans une soixantaine de pays à l'étranger.
Il faut reconnaître, et je vais reciter David Fuenquenos, puisque vous êtes amis, il faut reconnaître que dans les affiches, le nom de Fuenquenos ou de Zeller est aussi lisible que celui des acteurs.
C'est-à-dire oui, mais
c'est ça qui nous attire aussi.
Mais c'est une tradition au théâtre. Guitry et de son vivant était, je fais pas de comparaison entre Zeller et Guitry, l'un des deux pourrait m'en vouloir. Guitry mettait son nom très haut. Yasmina Reza, quand elle fait art, on met Reza en haut et puis après les autres sont, enfin les comédiens sont un petit peu en dessous. C'est assez une tradition théâtrale. Maintenant, si Zeller ne faisait pas vendre, les producteurs diraient écoutez, votre nom on va le mettre en bas en petit. Donc il y a bien une raison, c'est une alchimie qui fonctionne bien entre des castings prestigieux, un savoir-faire, un nom et puis quand même aussi le fait que les gens qui ont vu des précédentes pièces se disent ça m'intéresse d'aller voir la suivante.
Et est-ce que Florian, vous êtes souvent convoité justement pour rejouer des pièces? Parce que on parle de création, mais on a des tubes, comme on le dit, le père, la mère, le fils. Il y a, j'imagine, beaucoup de théâtre à Paris qui seraient intéressés pour
la fille.
deux mois reprendre le père ou la mère de façon un peu exceptionnelle. C'est un peu, je trouve, une tendance aussi dans les théâtres parisiens de reprendre des grands titres ou des grandes pièces et les faire jouer.
À la fois, ça rassure et à la fois, ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir se disent « je peux avoir de nouveau l'occasion ». Mais est-ce que c'est le cas?
Oui, enfin, c'était le cas par exemple pour le père, on l'a repris un petit peu, etc. Mais ceci dit, c'est bien de le faire un peu plus tard, je trouve.
D'attendre encore un peu.
Ouais, c'est-à-dire pour être obligé de savoir si on a encore quelque chose à écrire.
Ouais.
Et de présenter les trois. C'est-à-dire de ce qui doit être extrêmement compliqué. Jérôme Becquet,
une nuit familiale.
Non,
père-mère-fils.
Ouais, ou de se dire, je sais pas, un soir sur trois comme ça, et puis pendant une semaine dans un même théâtre.
Faut avoir un sacré moral, hein.
C'est vrai.
Parce que c'est quand même pas des pièces, comme vous l'avez dit, où on sort avec un sourire jusque haut des oreilles. Mais effectivement, ça a une logique, ça a une cohérence. De même que La vérité et le mensonge sont des pièces miroirs qui ont d'ailleurs été jouées par le même comédien Arditi et qui pourraient se voir l'une derrière l'autre,
ouais,
ou
ouais,
en tout cas on pourrait se faire une semaine vérité mensonge ou une semaine père mère fils.
Est-ce que ça fait partie des idées ou
ça s'est fait dans quelques pays, ouais. Mais je l'ai jamais moi vu. Mais c'est vrai que La vérité et le mensonge parfois étaient joués dans la même soirée où le père, la mère et le fils ont été joués en alternance comme vous le disiez dans le même théâtre et parfois par les mêmes comédiens puisque comme vous le disiez ce sont un peu les mêmes personnages.
Jérôme Béglé, le théâtre se porte bien, le théâtre contemporain?
Oui, parce que pendant très longtemps...
On a de bons auteurs, on a des bonnes pièces, on a...
Oui, pendant très longtemps, on disait Yasmina Reza et personne d'autre. Et là, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de comédiens, de dramaturges. Florian Zeller, évidemment, David Fuenquenos, dont vous parliez. Mais on pourrait aussi citer Alexis Michalik. On pourrait aussi citer Sébastien Thierry, qui remplissent les théâtres à Paris. Tous ne sont pas joués à l'étranger. C'est quand même la particularité zellérienne, si je puis dire. Mais quand on a 30 ans ou 40 ans, écrire des pièces, c'est pas ringard. Alors qu'autrefois, moi j'ai 48 ans, à 20 ans, j'avais l'impression que le théâtre, c'était un truc pour mes parents, mes grands-parents, un truc de bourgeois du 19e ou du début 20e qui était en train de plonger. Il y a beaucoup de théâtre à Paris.
Il y avait des tarifs qui n'aidaient pas non plus, hein, les jeunes.
Les jeunes peuvent aller au théâtre. Places,
oui,
à 10, 12
non,
euros, c'est assez bon. Et puis je crois qu'il y a un kiosque à la Madeleine où vous pouvez acheter des places. Mais en tout cas, c'est pas ringard que de dire je vais écrire une pièce de théâtre. C'est pas ringard que de dire je vais tenir l'affiche, ou j'ai pour ambition de tenir l'affiche 3 mois au théâtre de la Madeleine ou ailleurs. Et c'est vrai que du coup, ça a redonné un petit courant chaud et un petit peu de nouveauté à un art qui était un peu le parent pauvre derrière la littérature.
Merci Jérôme Béglé d'avoir apporté votre passion dans cette émission, parce que j'étais entouré, vous avez vu la bande que j'ai autour de moi?
Fini la phrase.
Merci beaucoup. Tanguy Passiro, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Mourir poilu.
Non, pollue.
Ah, d'accord. C'est oui. Parce que moi, j'étais avec le 11 novembre, c'est pour ça.
Ah oui, d'accord, pardon, oh, c'était un jeu de mots.
J'essaye.
Non, oui, bah oui, ça pollue parce que selon une étude, Nagui, entre le cercueil, ce qu'il y a dedans, le tissu, plus le mort bourré de médicaments qui se retrouvent dans les sols, une inhumation génère 833 kilos de CO2, autant qu'un voyage de 4000 km en voiture. C'est beaucoup trop, c'est pourquoi je propose que nous arrêtions de mourir.
Bonne idée. Hein,
d'autant que les gens font ça depuis toujours, enfin, c'est tellement has-been.
On en reparle après les infos de midi.
12h06 sur Inter et c'est la suite de la bande originale, Nagui.
Merci Estelle Schmitt, retour de l'info sur Inter à 13h avec le journal de
13h. 13h alors, oui, hein, oui, 13h.
C'est à 13h.
Et toute l'après-midi, Estelle Schmitt sera là pour vous informer. À tout à l'heure.
13h, c'était trop.
La bande originale avec Léna Gadot-Jobadi, Daniel Mohan.
Oui, 13h. Bonjour.
Tanguy Passureau, Guillaume Guise et notre invité Florian Zeller.
Bravo.
Nous parlons de cette publication chez Gallimard, Le Père, la Mère, le Fils. Publication qui est récente puisqu'elle a à peine quelques jours, oui. Alors que ces pièces ont été écrites pour la plus ancienne, pour la mère, ça remonte à quoi? Une dizaine d'années?
2010, ouais.
D'où est venue l'idée de les réunir, de les publier
et Gallimard surtout qui m'a proposé de le faire dans cette collection qui s'appelle Le Manteau d'Arlequin.
Et de ne pas les écrire dans l'ordre, puisque c'est d'abord le père, alors
c'est
que
vrai,
ce n'est pas la
c'est
première.
C'est vrai, c'est moi qui ai choisi l'ordre comme ça.
Pourquoi?
Je ne sais pas.
Oh non, Florian, vous pouvez pas me dire je ne sais pas répondre à cette question, c'est pas possible. L'ordre a forcément une importance pour un auteur.
Ça me semble plus cohérent, le père, la mère, le fils. Mais surtout, ce qui
me
semblait...
Il y a une vague qui arrive forcément derrière, donc vous le savez aussi, quand on commence une phrase comme ça, le père, la mère, le fils, on...
Ah bon ?
Oui, le Saint-Esprit, non ?
Ah oui, d'accord, pardon.
Non ?
Oui, si.
Bah si, on a ce
rythme-là,
oui.
C'est vrai, c'est pour ça que c'est peut-être mieux de ne pas faire le père, le fils et la mère.
Très bien.
Et la tête, elle
okay. Tom Villa nous a rejoint. Ouais, et Tanguy Passion. Bonjour Tanguy. Tanguy, la pollution, ça nous concerne tous aujourd'hui.
Oui, tous ont fait des petits gestes pour sauver la planète. Hein. Certains acteurs, pour sniffer de la coke, utilisent des pailles en bambou. Hein. Fini la paille plastique, tant mieux, parce que les dauphins, une fois les pailles dans la mer, les avalaient, ensuite ils dormaient plus pendant 15 jours. Hein. Sur le remake de Flipper, vous aviez un dauphin qui sautait 27 heures dans un cerceau avant de violer une tortue. Harvey Weinstein avec un aileron dorsal. C'est important les petits gestes, parce que tout pollue. Même cette chronique, pour la faire, il faut de l'électricité, des lumières, parce qu'on est filmé. Alors par décence, plus on vieillit, moins ils en mettent. Nagui, vous êtes dans une semi-pénombre, mais leur père a déjà 7000 vidéos d'elle dans le noir complet. Pour cette chronique, il faut aussi des gens en régie. Bon, là, ça ne pollue pas parce que ce sont des intermittents fauchés qui viennent ici sur les genoux en pleurant pour avoir des pièces. Bref, je pollue, l'humour pollue, à part Guillermo Guise qui débite 700 mots à la minute. L'intégrale de Raymond Devos, il peut la torcher en un quart d'heure. Ensuite, on coupe son micro et des femmes lui font l'amour en criant à la vache en belge un peu sexe. J'en étais resté à Plastique Bertrand parce que les fans de Guillermo sont très vieux. Et ben, les comiques polluent. Et là, on pourrait se dire vivement qu'ils crèvent. Parce que déjà, tous ne sont pas drôles. Hein, en 50 ans d'humour, on retient quoi? Le sketch du train pour peau de Chevalier Las Palès et le discours de François Hollande quand il disait que son ennemi, c'était la finance. Et ben, même là, c'est raté. Parce que figurez-vous que mourir pollue. Et c'est là qu'on réalise que Chirac n'était qu'un beau parleur. Notre maison brûle, gna 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 gna. Ben, il est mort quand même, cet enfoiré. Or, selon une étude sur la mort, une inhumation génère 833 kilos de CO2, l'équivalent d'un trajet en voiture de 4000 km, soit la distance qui sépare un électeur de Florian Philippot d'un autre électeur de Florian Philippot. Alors, certes, vous allez me dire, quand on meurt, a priori, c'est la dernière fois qu'on pollue. Hein, si on écarte la possibilité d'une apocalypse zombie, hein, lors de laquelle des cadavres sortiraient de leur tombe, sapés comme Michel Houellebecq. Mais c'est pas une raison. Il faut protéger la planète. Regardez Greta Thunberg. Pour la préserver, on voit qu'elle ne se lave pas. Hein, quand on tord ses nattes, il y a la graisse qui sointe, ensuite elle la met dans la poêle et fait des pancakes. Donc tonton René, qui à 85 ans a usé 14 Renault Diesel, doit partir là-haut retrouver Marie Laforêt, Victor Lanoux et la carrière de Ménélique. Sans polluer, il faut qu'ils se rattrapent. Seulement, bah c'est fichu parce que le cercueil déjà est verni, donc il y a de la pollution. Ensuite, nous dit l'étude, il y a du tissu dedans, sauf pour les proches de Valérie D'Amido qui ont aussi dans leur cercueil de la moquette et un petit lustre. Hein. Donc, pollution. Les vêtements portés par le défunt, nous dit l'étude, génèrent également de la
pollution. À part au Cap d'Agde où les gens sont enterrés nus et tout raides, lors de l'éloge funèbre, un neveu dira alors « ça ressemble tellement aux 40 années qu'il a passé ici ». Enfin, les traces de médicaments dans le corps qui partent dans les sols pollue également. Une dame comme Loana, quand elle clame, se contamine en hectare l'équivalent de l'Ukraine. Ainsi, on arrive à 833 kilos de CO2 lors de la mort, ce qui est trop.
Alors justement, est-ce qu'il existe une solution pour mourir propre et ne pas polluer?
Oui, alors la première, c'est de ne pas mourir. Hein. C'est l'option choisie par Gérard Collomb, hein, qui à Lyon est candidat à sa succession en tant que maire. Alors depuis 72, il a la même affiche. Il y a sa tête qui ne bouge pas parce qu'il est né vieux. Sa naissance a eu lieu dans l'aile des soins gériatriques de l'hôpital de Chalon-sur-Saône. On met juste du blanco sur la date et on écrit au BIC 2020, 2026, 2032, bon, etc. Prenez Madonna, est-ce qu'elle meurt? Non, elle a la patate. À 61 ans, elle secoue son boule, même si à cet âge-là, on a moins un boule qu'une sorte d'ovale un peu plus large en bas. Mais à part pour 2-3 fans de géométrie, ça fait la blague. Donc, solution 1, ne pas mourir. En plus, c'est bien parce qu'on voit la saison 4 de Stranger Things. Si on crève le 2, alors que Netflix a prélevé la veille l'abonnement mensuel, c'est nul. Moi, je traverse hors des clous seulement à partir du 27. Autre solution, la crémation, qui ne produit que 233 kilos de CO2. Alors, il faut aimer l'ambiance feu de bois et soirée devant France 3. Hein. Et attention, quand Gérard Depardieu mourra le plus tard possible, parce qu'il est top, évitez la crémation. Hein. Trop d'alcool là-dedans, ça va partir en torche, le feu va se propager à toute la ville. Et dernière solution, l'humusation. Ça se fait de plus en plus. Alors, la Belgique est sur le point de la légaliser. On met le corps directement dans la terre. Hein. Les types de silence ça pousse viennent chez une dame qui refait son jardin. Ils lui disent « Bon, Martine, on va vous mettre des jacinthes, des bégonias et Monsieur Sanchez. » Alors, pour le distinguer, c'est celui qui, au printemps, ne donnera pas de fleurs. Hein. Et en 12 mois, le corps humain se transforme en humus. En fait, ça fait du compost. Et c'est là qu'on réalise qu'on a la même existence que des épluchures de carottes. Hein, quand on a ça en tête, ça permet de rester humble. Parce que notre parcours de vie aussi bien aurait pu se finir dans un pot-au-feu entre deux navets et un bout de bœuf. Nous sommes peu de choses. Bref, pour ceux qui détestent la campagne, l'humusation, ça leur plaira pas. Hein. Il reste donc la crémation ou l'inhumation, mais ça pollue. Quand je pense aux Bee Gees qui ont porté des chemises avec des cols de 60 cm de long, trop de tissu polluant, ont fait danser des tas de cons qui se prenaient pour Travolta au Kalimba Club de Dijon, polluant, et déjà 2 sur 3 dans le groupe sont morts, on se rend compte à quel point la disco a plombé la planète. Allez, longue vie à tous.
Merci David Basson.
La bande originale, la vie sur France Inter.
La mort, on en rit avec Tanguy Pastureau, elle est présente dans les trois pièces, Florian Zeller. Vous l'appréhendez, la vôtre ou celle de vos proches? La mort, c'est un sujet...
Je ne l'appréhende pas, mais je trouve que c'est une bonne option finalement de décider de...
De ne pas mourir.
De ne pas mourir, oui, pour le prétexte de ne pas vouloir polluer. On cherche tout ce qu'on peut faire pour aider la planète, parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler de ce sujet-là. Et finalement, je trouve que c'est un geste...
Citoyen.
Bon, ne fuyez pas la mort présente dans vos trois pièces. Le père, la mère, le fils, la mort est là. Tout le temps.
Oui, surtout dans le fils, parce que c'est de ça dont il est question. C'est l'histoire d'un enfant qui a 17 ans, qui traverse une période dont on ne sait pas très bien si c'est juste une crise d'adolescence ou quelque chose d'autre, et qui n'arrive plus à adhérer à la vie, c'est-à-dire qui a des pensées morbides comme ça, qui se dit qu'il ne comprend plus vraiment l'intérêt ou le sens de vivre. Donc c'est autour de cette question-là.
La vieillesse abordée dans le père et la mère, ça passe par l'abandon, ça passe par aussi la famille qui, parce que c'est le processus normal, les enfants s'en vont et s'occupent moins des anciens.
Oui, mais il y a
des cycles. Une forme de mort, cet abandon-là, c'est une forme de mort.
Dans la mère, en effet, c'est l'histoire d'une mère qui soudain se sent privée de... Comme si on lui coupait les vivres parce que ses enfants... quitte la maison, mais une femme, c'est pas qu'une mère.
Elle a jamais aimé sa fille. Ça, c'est d'une violence. Ouais. Ça, c'est de l'humour noir, carrément. Ce qu'elle dit sur sa fille, Sarah, si j'ai bonne mémoire.
Exactement.
Elle est d'une violence inouïe.
Mais c'est une cruauté assez drôle. Isabelle Huppert l'a jouée cette année, la pièce.
À New York.
Ouais, et Isabelle Huppert, qui est, pour moi, une des plus grandes actrices et une des plus drôles dans la cruauté, quand elle sortait ces répliques-là, c'était vraiment très, très savoureux.
Vous allez voir les créations à l'étranger de vos pièces, systématiquement? Vous les suivez?
Non, pas systématiquement, mais quand il y a un enjeu qui me parle, ou, par exemple, dans une langue que je comprends, avec des acteurs que je peux connaître, je me sens beaucoup plus concerné. Là, Isabelle Huppert, c'était un moment très, très fort, parce qu'elle jouait en anglais à New York. c'est déjà très fou et un peu courageux de sa, enfin, c'est très courageux et un peu fou de sa part de le faire. Parce que je crois que peu d'actrices françaises l'avaient fait avant elle. Et, mais elle est, elle a, on a l'impression qu'elle a peur de rien, cette actrice, cette femme, et elle a eu cette, ouais, cette audace de monter sur scène et de jouer cette pièce, c'était très, très fort.
Quel sentiment vous avez eu quand vous avez su que vous seriez pour la première fois joué à l'étranger? D'ailleurs, la première pièce qui a été jouée à l'étranger en anglais, c'est laquelle?
C'était le père.
C'est le père.
Ouais, c'était le père.
Quel sentiment on a à ce moment-là? C'est une forme d'aboutissement, une reconnaissance de son vivant, en disant j'arrive à sortir des frontières.
C'est hyper rare.
Ouais, ça n'existe pas, je crois. Il y en a pas d'autres que vous.
Si, contemporain. Yasmina Reza.
Yasmina Reza, elle a eu une très très, elle a fait énormément de créations à l'étranger. Non, moi ce que j'ai trouvé, ce que j'ai adoré, c'est de rencontrer d'autres acteurs, d'autres façons de rêver, de produire, de travailler, et de, j'ai l'impression d'avoir, c'était comme un peu respirer ailleurs et différemment. Et il y a, bon, on a des supers acteurs en France et on le sait tous, mais je sais pas bien pourquoi les acteurs anglais sont incroyables. Il y a un talent particulier. Peut-être ça tient à la langue, qui est une langue beaucoup plus directe. Mais à chaque fois
dans
que je
là, c'est Isabelle Huppert, actrice française, qui va jouer en anglais à New York.
Oui, mais je
bon. So chic, so Frenchy, so chic.
Non. Ouais, ouais.
La classe. Question concernant la culture. Autour de cette table, dites-moi si je vous parle de The Beautiful Ones. Je parle d'une autobiographie inachevée, mais signée par qui?
Prince.
T'es affûté. Ouais, affûté, Prince. Alors, il a commencé à l'écrire, mais évidemment, il l'a pas terminé.
Oui.
Comment il va sortir de celle-là?
Quel fainéant celui-là. Il s'est dit, bah non, je ferai ça plus tard.
J'ai commencé la phrase, j'ai dit, mais comment j'ai la finir celle-là? Est-ce que c'est le genre de livre que vous lisez ou pas, Florence Zeller? Les biographies comme ça d'artistes?
Pas trop, mais j'ai tort parce que je trouve ça passionnant, mais je suis pas un grand lecteur de biographies.
Alors, et pourtant, il y en a une autre sur laquelle je vais vous interroger. Face It, Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, du groupe, avoue dans son autobiographie avoir échappé
à la mort.
Oui, mais créé par quoi ou par qui?
Par quelqu'un de très connu, c'est ça?
Non.
Ah non.
On cherche une méthode de mort?
Oui, c'est exactement. Oui. On cherche une méthode.
Noyade.
Électrocution.
Non, noyade. Non. Guillermo est bien passé pour répondre à ça.
La drogue. Le sexe.
Non.
Le sexe.
Non, elle a failli mourir ni par le sexe ni par la drogue.
Ah, mais si c'est Guillermo. C'est Guillermo.
Non.
Parce qu'elle parlait trop vite.
Non.
Ça a étouffé, excellent.
Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. J'ai envie de la taper.
J'étais plutôt sur un truc belge. J'étais plutôt sur une.
La bière.
Ah non, elle a eu un pédophilie.
Elle a non.
Autre chose. Tu représentes bien ton pays. Hein.
Bravo.
Belge, non, mais pédophilie. Je crois qu'on a fait le tour.
Je crois qu'il est passé pour le fils de Touré.
Mais d'ailleurs, j'en sais rien. Peut-être une blague là-dessus, c'est qu'elle a eu, elle a été abusée quand elle était petite.
Non,
petite,
non,
quoi,
non, 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 non. Elle a failli être tuée par.
Une gaufre.
Pour une frite.
Marc Dutroux.
Émile Louis.
Donc,
un tueur en série.
Exactement, merci. C'est Tom Villa, un serial killer.
Ah, enfin. Ah ouais.
Vous en avez, vous, un peu des séries?
Bah, comme tout le monde, là.
Ouais, vous avez les meilleurs.
C'est vrai que c'est pas la spécificité.
Il paraît qu'il y en a
un
par immeuble à Bruxelles.
C'est pas, enfin, vous n'êtes pas plus connu pour ça que pour autre chose,
si,
quoi.
Ah, si.
Quel...
tu vois, en série, je sais pas, pédophile, oui, mais.
Je pense qu'on change de sujet.
Ah ouais, d'accord.
Ok, très bien. Quel best-seller va être pour la première fois réédité en France début 2019?
Mein Kampf.
Exactement. Alors là, c'est quand même
laissé. Désolé, mais...
C'est bien parce que l'ambiance était trop détendue en France. Ouais, je trouve qu'il fallait ça.
La pédophilie, le nazisme.
Voilà, non, mais voilà. Florence Zeller.
C'est best-seller qui est surtout gênant.
C'est ça. Oui, mais j'y peux rien. Bah c'est un best-seller. Est-ce que Mein Kampf, c'est un. Il faut le lire pour comprendre l'horreur ou au contraire l'interdire?
Je connais pas assez le sujet pour dire les choses. Moi, j'ai l'impression à l'intuition qu'on sait tout ce qu'il y a dedans et qu'on peut se dispenser de le lire pour avoir un avis critique sur ce que c'est. Donc, le publier, c'est une invitation à la lecture. Je crois pas que c'est trop de justification.
Puis le temps de lecture est tellement précieux qu'on pourrait lire des choses tellement merveilleuses. Pourquoi s'arrêter là-dessus?
Puis, est-ce qu'on le mettrait pas hyper cher et le remettre à une association,
Ça serait bien, oui, les bénéfices, c'est vrai, non, mais la bonne question.
À qui que Nagui n'y ait pas pensé
à qui, non, mais, non, mais à qui iront les bénéfices des ventes de Mein Kampf?
Et puis surtout, comment éditer le texte? Parce que c'est une vraie question d'édition. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un appareil critique? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Ou est-ce qu'on vous balance le texte pur comme ça?
Ça me semble impossible de publier ce texte sans appareil critique. Ouais. Et puis, à qui va l'argent? Alors, je pense ça à l'éditeur, tout simplement.
Les droits, oui, parce que les droits sont tombés dans le domaine public. Exactement.
Pour, ah, donc pour la première. Ouais,
plus de 70 ans.
Exactement, exactement. C'est la maison Fayard, pour ne pas la citer, qui confirme le projet. Le manuscrit est quasiment prêt, a expliqué le responsable du projet, Florent Braillard, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de la Shoah, interrogé en l'occurrence par JDD. Voilà. Le livre devrait être publié en 2020. Et le texte sera assorti d'une édition critique, comme tu le dis, de 1000 pages et d'une nouvelle traduction.
Ah, donc, quand même. Y a 2020, donc ça arrive trop tard pour les cadeaux de Noël, c'est dommage. Parce que...
On a toujours un grand-oncle à qui on ne sait jamais quoi offrir.
Toujours un vieil oncle.
Franchement, là, entre l'office du tourisme belge et l'autre.
Restons dans l'horreur, voici Daniel Morin.
Ah, il sait me parler.
Allez, vas-y Daniel.
Sans déconner, un jour d'armistice. Le mec, tu me marches sur la gueule.
Avec ce sale gueulasse.
Vous le savez, l'utilisation de trottinettes, un peu de sérieux, est désormais très très contrôlée en France. Très contrôlée.
Oui,
pas le droit de rouler sur les trottoirs, défense de se garer de façon sauvage, port d'un vêtement réfléchissant. Si le conducteur est âgé de moins de 12 ans, le port du casque est obligatoire. Un feu avant, un feu arrière, vitesse maximum 25 km/h, pas d'écouteurs quand on roule. On commence à y voir plus clair. On y voit plus clair, certes, mais que risque-t-on vraiment? Il y a des amendes qui iront de 35 à 135 si on ne respecte pas les règles de circulation. Une amende qui pourra aller jusqu'à 1500 si on est pris en excès de vitesse, mais cela est-il suffisant? Eh ben non, pas du tout. C'est de la gnognotte, tout ça. À Singapour, au moins, à Singapour, ils ont pris des décisions là qui dissuadent. Depuis avant-hier, si tu roules sur un trottoir singapourien, tu risques 2 mois de prison.
Ferme.
Ah oui, là ok.
Ferme.
Ben oui, là mon ami, tu parles vraie répression. France Inter flash spécial à Singapour. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les conducteurs de trottinettes ne sont pas à la fête. Hier, un jeune Singapourien de 11 ans a été flashé à 120 km/h sur un trottoir de la ville. Il roulait sans casque et sans feu avant ni arrière. Les policiers l'ont poursuivi pendant 2 heures car il écoutait à fond Michel Sardou sur son iPod. Présenté en comparution immédiate, il a été condamné, tout cumulé, à 14 ans de prison. Il pourra toutefois réduire sa peine à 1 semaine de détention s'il accepte de se faire couper une jambe. L'ablation d'un membre inférieur étant considérée par les autorités singapouriennes comme un excellent moyen de ne pas enfreindre la législation relative à la conduite des trottinettes. Le conducteur étant mineur, les parents de ce dernier seront automatiquement condamnés à la peine de mort par décapitation. C'est l'enfant contrevenant qui devra couper lui-même la tête de ses parents. Un geste grave, voire traumatisant certes, mais qui selon le ministre de l'éducation singapourien apprendra à l'enfant le sens des responsabilités. Là, arrêtez de rire, c'est horrible. Là, tu réfléchis à 2 fois avant d'aller faire le zazou à roulette pour prendre une expression un peu punk. Une fois encore, la France fait preuve d'un laisser-aller insupportable. Moi, le mec ou la nana qui se présente à la mairie de Paris et qui dit... Parisiens, parisiennes, en ce moment, la circulation sauvage de certains moyens de locomotion dans notre ville, je dis, ça suffit. Avec moi, terminer le laxisme. Avec moi, c'est clair, les voyous, car ce sont des voyous. Les voyous qui roulent sur les trottoirs à trottinette ou même à vélo, c'est fini. Basta cosi. Si je suis élu, chaque Parisien qui sera accommodé sur son trajet par un comportement de trottinetteur non citoyen sera autorisé à sortir une arme et à faire feu. Voilà. Alors bien sûr, on leur colle pas une balle dans la tête, on n'est pas des monstres, on est le pays des droits de l'homme, mais une bonne balle dans la jambe, à titre d'avertissement, ça les fera réfléchir. Vive la France, vive Paris. Voilà, ça c'est de la dissuasion. Allez, joyeux armistice à tous, vive les poilus à demain.
Merci vraiment.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Le père, la mère, le fils, excellent texte compilé chez Gallimard. Florian Zeller en est l'auteur. Vous en êtes où justement de votre plume?
En fait, j'ai réalisé un film qui était l'adaptation du père. Donc, c'était pas écrire, mais c'était écrire différemment. Ouais.
Réécrire. Mais là, il y a des manuscrits. Est-ce qu'il y a déjà des manuscrits que vous avez écrits, d'ailleurs sur un ordinateur ou sur avec un papier?
Un peu les deux. Mais non. J'ai pas de texte d'avance.
Ça, j'arrive pas à le croire. Il n'y a même pas le début, une ébauche, hein, des idées qui sont compilées dans un carnet, dans un coin,
en disant
je mets de côté, on verra si je m'en sers ou pas.
Mais j'ai toujours eu l'obsession d'avoir quelque chose un peu en avance. C'est la première fois que je n'ai rien.
Il n'y a aucune pièce prévue, programmée.
Il va sortir en angoisse, vraiment sans pression. Rien.
Mais je trouve ça dingue.
Il s'agit peut-être tout simplement d'une fin de carrière.
Vous avez une envie quand même.
Ah oui, plein. Mais j'étais dans l'aventure de ce film-là et ça m'a. Je suis en train de finir le montage de ce film, donc ça dévore énormément et de temps et de désir.
Et ça vous a plu au point de.
Ouais, c'est ça. Ça m'a passionné. C'est un film qui est en langue anglaise qui sera sans doute l'année prochaine. Qui sortira l'année prochaine.
Alors, qui est au casting ?
Alors, c'est Anthony Hopkins qui fait le père et Olivia Colman qui joue sa fille. Olivia Colman, je ne sais pas si vous voyez, c'est cette superbe actrice qui a fait The Favourite l'année dernière qui a eu l'Oscar.
Oui, absolument. Est-ce que dans les rencontres que vous faites, on sent l'amour, la passion que vous avez pour les acteurs, les actrices, est-ce qu'il y a des déceptions aussi ? Est-ce qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas aussi remarquables que l'acteur ou l'actrice qu'ils sont ?
Oui, mais enfin, le rêve, il se cristallise sur l'acteur, pas tellement sur l'être humain, mais non, pas tellement en fait. Anthony Hopkins, par exemple, c'était vraiment...
Je pensais pas à lui en particulier. Hein.
Non, mais c'était un rêve très fort de travailler avec lui. Ouais. Et c'était une aventure incroyable, parce que quand on le regarde, on peut pas oublier... tout ce qu'il a été, Hannibal, donc il fait un petit peu peur de. C'est un acteur très intime. On a peur qu'il nous mange la langue.
Disons là, ça fait peur.
Vous parlez d'écriture encore. La réalisation est une forme d'écriture.
Oui, enfin, c'est raconter une histoire, donc c'est aussi écrire.
Vous avez modifié beaucoup de choses.
Oui. Mais le montage, c'est aussi une écriture. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs formidable à quel point on peut réécrire un film en le montant.
Le père, la mère, le fils, Florian Zeller le publie chez Gallimard. Qu'est-ce que, Leïla, tu en as retenu de cette lecture et de cette émission ?
Eh bien, moi, j'aurais bien voulu serrer dans mes bras Robert Hirsch. Je suis allée voir la pièce, pourtant, et toutes les autres aussi. Et ça, là, je suis jalouse.
Ça serrait dans les bras le pompier de service, et voilà.
Oui,
et
mais
voilà.
Ça je le fais systématiquement. Bien, oui.
Daniel Morin, Daniel, t'es pas sorti indemne, toi.
Non, du tout. Et alors, je lis le père, la mère, il reste le fils à lire. J'en parle à la chroniqueuse économique du matin, Sophie Fay. Je lui dis, mais il me reste le fils à lire. Elle me dit, oh là là, j'ai vu la pièce au théâtre, c'est horrible. Elle fait, mais c'est horrible, mais c'est génial. Je suis tout à fait d'accord avec elle.
C'est horrible, mais c'est génial.
C'est horrible, mais c'est génial.
D'accord. Tom Villa.
On a de la chance de pouvoir faire une émission avec l'un de nos meilleurs contemporains. Je pense que dans quelques années. Non, mais c'est vrai. Florian Zeller, c'est quelqu'un qui va traverser les époques, les années sans souci. Et on a de la chance de l'avoir à côté de nous.
Je te confirme. Guillermo.
Mais moi, en fait, je le connaissais via ses premiers romans et tout. Et je pensais que c'était quelqu'un de. C'était un espèce d'alcoolique complètement. Vraiment, je le voyais pas du tout comme ça. Je le voyais pas du tout aussi sain. Je suis très content pour lui.
Prenez ça pour un compliment, parce que généralement, ils n'aiment que les alcooliques. C'est très surprenant. Très surprenant. Tanguy Pastureau.
Bah écoutez, on a parlé serial killer, pédophilie, mort, Mein Kampf. Hein, genre, je ne sais pas si c'est Florian Zeller qui suscite ça.
Non.
Mais je lui conseille une belle carrière dans le rock gothique, si jamais c'est le cas, parce qu'il y a un truc à faire.
Non, mais ce qu'il faut préciser, c'est que Florian, en lisant le père, la mère et le fils, autant d'ailleurs qu'en ayant vu les pièces, c'est au contraire une formidable déclaration d'amour. À chaque fois, on passe par des fourches godines et des moments de douleur et de larmes, mais c'est un appel à l'amour et à la vie, en tout cas en permanence. Et pour ça, un grand merci.
Merci à vous.
À très bientôt. On reparlera de ce film, si nous on est encore là, en tout cas, au moment où il sortira en 2020. Chez Gallimard, je rappelle, le père, la mère et le fils. Bonne journée sur Inter. Tout de suite,
merci.
Sur les carnets de campagne. Ah non, pardon. Mais non, mais j'ai oublié
désolé déjà en premier pour Florian Zeller qui ce matin a vécu la même tourmente, le même supplice que nous depuis 5 ans, à savoir ne pas comprendre les questions de Maggie. C'est chiant, hein, Florian. Bah, nous, c'est notre quotidien. Désolé pour les gens qui ont découvert ce matin que Florian Zeller ne ressentait aucun intérêt pour eux. Ça se défend. En même temps, je suis pas fan non plus de vous, les gens. Désolé pour la fille, l'oncle et le beau-père qui ont découvert ce matin qu'ils n'intéressaient pas du tout Florian Zeller. En même temps, la fille, l'oncle et le beau-père, c'est déjà une pièce qui existe. C'est en Belgique. Le décor, c'est une cave, une pièce produite par Jackie et Michel en partenariat avec Mannequin Peace Porn Prod, où travaille notre bon Guillermo, alias Pédoboy. Et désolé pour Florian Zeller, j'ai eu votre attaché de presse et je dois vous prévenir, après Marie-France, après Marie-Claire, la bande originale, vos prochaines interviews prévues sont pour Passion Pitbull, Tricot Magazine, Jeune et Jolie, l'officiel du pneu. On a hâte de vous lire.
Ah, il fallait pas les louper, ces excuses. Merci Florian, portez-vous bien. À très vite. Aussi des carnets de campagne. Bonne journée sur Inter.
Merci Nagui, à demain.